Donc nous allons poursuivre cette matinée de présentation avec Catherine Didelot, conservatrice restauratrice au Musée des Arts Décoratifs, sur une présentation intitulée « Les micro-conditionnements en archéologie, principes et applications, est-ce un modèle à exporter ?»
Voilà, donc là je travaille au Musée des Arts Décoratifs, mais j'ai quand même passé de nombreuses années plutôt dans le domaine de l'archéologie, mais voilà, j'ai cédé au... quelques années, un poste en institution. Mais je garde quand même un petit pied en archéologie. Donc voilà, dans les présentations précédentes, on a vu qu'en archéologie, il y avait beaucoup de questions de gestion du nombre, des volumes, de quantité, de mobilier archéologique. Mais beaucoup d'objets aussi ont, de par leurs matériaux constitutifs, des sensibilités particulières, et on va venir les sortir du lot et leur faire des conditionnements plus adaptés. Donc ça a été déjà dit par Madame Maggio, il y a deux temps dans l'archéologie en sortie de fouille. Il y a à court terme, dans les 3 ans qui suivent la fouille, le temps de l'étude, avant le dépôt, et puis après, à long terme, en dépôt, en CCE, où on va avoir la conservation à long terme. Donc je vais aborder différents aspects techniques et solutions vraiment pratiques qu'on va utiliser régulièrement pour gérer l'eau, l'hygrométrie, l'oxygène ou les polluants. Tout ce qui est température, ça se gère facilement, frigo, aux chambres froides ou la lumière également, c'est facile à aborder. Donc je vais plutôt aborder les autres domaines. Mais d'abord, je voudrais vous parler de l'étanchéité, puisque c'est quelque chose qui est implicite. Il faut connaître l'étanchéité j'ai pas appuyé sur la bonne flèche. Comment mesurer l'étanchéité, puisque c'est nécessaire d'avoir des contenants étanches si on veut y maintenir une hygrométrie vraiment stable. Et plus l'étanchéité sera bonne, moins il y aura de manipulations à faire et de renouvellement, ce qu'on ne veut pas faire à long terme. Donc l'étanchéité, ça se mesure assez facilement. On parle de taux de renouvellement d'air quand on parle de contenant. Donc là, vous avez un dessicateur et vous avez les boîtes qu'on utilise régulièrement en archéologie. La façon de mesurer le taux de renouvellement d'air qu'on compte par jour... se fait avec un gaz traceur qui est le CO2 parce que c'est inerte, parce que c'est facile à se procurer. Très concrètement, c'est les petites capsules pour regonfler les roues de vélo qu'on peut trouver. Et puis, les appareils sont assez peu chers. Pour quelques centaines d'euros, on peut avoir des appareils qui vont mesurer le CO2 et donc la décroissance du CO2. On vient remplir le contenant de dioxyde de carbone, on voit la décroissance, c'est la courbe bleue que vous avez derrière, c'est une exponentielle décroissante, et on va avoir, en passant par les logarithmes, enfin peu importe, c'est une manip sur Excel, à la limite il n'y a pas besoin de la comprendre, on va avoir la droite, la pente de la droite va nous donner le taux de renouvellement d'air du contenant. Ça se fait en musée, de façon très régulière pour les vitrines, ça peut se faire aussi pour les boîtes. Donc là, vous avez pour un dessicateur qui est sans doute la meilleure solution pour un volume limité, pour avoir une bonne étanchéité, où on va avoir un taux de renouvellement donc de 0,1, 0,2 pour ce type de contenant. Ça veut dire qu'il va falloir 10 jours pour que tout l'air soit renouvelé. Et ça permet de garder des hygrométries ou des taux d'oxygène très longtemps, sans avoir de manipulation. C'est des choses qui s'ouvrent facilement. Vous avez les 3 boîtes ci-dessous, c'est aussi des choses qui s'utilisent beaucoup en archéologie. Il y a eu des tests par plusieurs personnes, ont fait des tests, il y en a qui ont été publiés sur l'étanchéité de ces boîtes, suite à des tests d'étudiants. Donc, par exemple, Isabelle Colson a présenté ça au tableau rond de RIGMA, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le réseau interdisciplinaire des gestionnaires de mobilier archéologique, qui sont des contacts à prendre aussi, peut-être, si vous n'en avez pas. Et les boîtes, alors pour donner les résultats, les boîtes Miflex, l'étanchéité, c'est à peu près de 1. Et ce n'est pas très reproductible. Tout ça, c'est à cause du couvercle. C'est un autre plastique, il est plus ou moins souple, il va se déformer. Voilà, les boîtes Miflex, ce n'est pas super. Les boîtes Modulus, c'est déjà mieux, selon les formats, selon la taille. Là aussi, le format, donc la taille du couvercle, on va être 0,5 à 0,2. Et les boîtes Lock and Lock, qui sont les dernières, je ne devrais pas donner de nom, mais de marque, c'est beaucoup plus efficace parce qu'on a un joint en compression avec un couvercle qui vient se rabattre, mais c'est aussi 10 fois plus cher que les autres boîtes. Le dessicateur qu'il y a là, qui est vraiment, vraiment très bien et qui pourrait permettre de garder en plus une petite collection, c'est quelques centaines d'euros. Après, ça dépend parce que les joints sont différents, les parois sont différentes. Ça peut être en verre, ça peut être en acrylate, peu importe, métacrylate ou autre. Donc voilà, c'est des choses, c'est pas très compliqué de mesurer l'étanchéité. C'est des choses qu'il faut pouvoir faire. Quand on considère des... Je me suis à nouveau... C'est pas la bonne flèche. Non. Désolée. Et par contre, quand on parle de sacs, ça a été déjà... Certains ont été évoqués. Ce matin, quand on parle de sacs, il ne faut pas uniquement considérer les fuites qu'on peut avoir dans des boîtes et les zones de fuite, mais il faut aussi compter avec la diffusion du gaz à travers la poche. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Donc l'humidité qui va rentrer alors qu'on essaie d'être complètement sec dans le sachet, ou qui va sortir si on veut justement pas être trop sec. Normalement, dans ces cas-là, ça peut difficilement être mesuré avec du CO2, puisque quand on parle de diffusion, la taille de la molécule qu'on considère du gaz d'intérêt a une incidence. Et de fait, pour les films, on a toujours deux données qui devraient normalement être à chaque fois données par les sites vendeurs, qui sont la perméabilité à la vapeur d'eau et la perméabilité à l'oxygène. Donc ça, c'est le tableau que vous avez derrière, ça vient d'un site allemand, Longlac, de fourniture allemande, pardon, Long Life for Art. Vous n'avez pas forcément ces informations sur les fournisseurs français. Donc c'est des choses qu'il faut regarder. Donc les films aluminium, c'est tous ces films vraiment efficaces, c'est trois couches, ça a déjà été mentionné par Alison tout à l'heure. Les plus efficaces, c'est ces films aluminium qui vont avoir une couche d'aluminium qui est déposée entre deux couches de plastique, une de polyester et une de polyéthylène. Et la couche de polyéthylène va pouvoir se souder à chaud, qui va permettre de sceller le sac. C'est la même chose, donc Escal, c'est une couche de céramique qui est entre deux couches de plastique. Et tout ce qui est film de nos sachets de polyéthylène, que ce soit haute densité, basse densité, c'est globalement 100 fois moins étanche. Donc l'eau liquide ne passe pas, mais l'eau, la vapeur d'eau, finira toujours par passer quand on a un sac en polyéthylène. Donc là aussi, il y a des façons de le tester, mais c'est déjà pas forcément adapté à ce que nous, on peut faire en institution. Donc il faut vraiment se référer aux notes et aux fournisseurs. Voilà, donc pour reprendre ensuite quelques exemples, donc quand on a des objets qui sortent de fouilles, pour certains matériaux, il va falloir avant tout ne pas modifier les conditions d'enfouissement jusqu'au traitement. Donc ça va être le cas pour le bois, par exemple, ou pour le cuir. Si on veut pouvoir remonter, là on a un seau médiéval, si on veut pouvoir le remonter, il ne faut surtout pas que le bois ait séché. Même chose pour le cuir, on peut arriver à faire des choses formidables. Là c'est une poulaine de Saint-Denis, qui est un site qui me tient à cœur particulièrement. Donc cette poulaine, elle a pu être fouillée, étudiée, traité et ensuite remonté en réutilisant les trous de couture, il n'y a eu aucune déformation, ou en tout cas un minimum, vraiment minimum de déformation. Et comme tout matériau organique, s'il y a séchage, il va y avoir des déformations qui vont dépendre de l'emplacement où on est dans la peau et du sens de croissance. C'est la même chose pour le bois. Si on a trop de déformations dans le bois, on ne peut pas remonter le seau. Donc voilà, c'est dans un premier temps, voilà, il faut donc maintenir l'humidité. Ça peut être en caisse, ça peut être des petits contenants, ça dépend si l'objet peut être identifiable au moment de la fouille. Je vais peut-être accélérer un peu. On a aussi tout ce qui est prélèvement. Donc quand sur le chantier, on va avoir un objet qui est fragile, qu'on n'a pas le temps de fouiller, on va faire des prélèvements en motte. Le problème des prélèvements en motte, c'est que idéalement, ça donne le temps après de faire une fouille fine en laboratoire, sauf que, ou dans la base de fouille, sauf que souvent, les prélèvements, au lieu d'être traités, dans les semaines qui suivent, ils sont traités très longtemps après. Et si ça sèche, on va avoir les sédiments qui vont se fissurer et on va avoir des pertes, des casses des objets et éventuellement des pertes. Là, c'est un objet, les petits éléments blancs, c'est du corail. Du corail qui est très altéré. Si on a vraiment une rupture au moment de la fouille, on va pas pouvoir l'étudier. Donc ça, c'est des choses qui se gèrent assez facilement, qui peuvent être en sac, qui peuvent être en bac. Ça dépend aussi de la durée. Mais l'idée, c'est que faut pas que ça dure longtemps. C'est l'idéal. Après, on va souvent avoir des matériaux qui vont nécessiter une humidité relative stable. Alors, ça peut être de deux ordres. Là, j'ai mis deux exemples, des bracelets en lignite. Alors, ce qu'on appelle lignite en archéologie, surtout en sortie de fouille, c'est peut-être pas ce que vous appelez lignite, parce qu'on va, quand ça sort de fouille, c'est couvert de sédiments, on peut pas forcément faire exactement la différence entre les différents stades de fossilisation du bois. Et puis, donc, bon, voilà, les deux bracelets... sont là, donc ça va avoir tendance à se déliter en séchant, donc on va avoir besoin d'un séchage très lent à la sortie de la fouille. Là aussi, on va jouer sur l'étanchéité, mais justement en ayant des boîtes qui ne sont pas très étanches, et on va s'en servir pour savoir qu'on va avoir un séchage lent. Et puis après, après traitement, il faut surtout garder une humidité stable. Un autre exemple, c'est le verre criselé. Donc il y a beaucoup de verres, vous savez que le verre, c'est composé de silice, enfin les verres anciens en tout cas. Le réseau est fait avec de la silice, ensuite on va avoir des fondants et des stabilisants. Et selon l'équilibre qu'il y a entre fondants et stabilisants, on va avoir des verres qui vont être stables ou pas, avec des ions qui vont être lixiviés, enfin qui vont sortir à cause de l'humidité ambiante. Ça va modifier le réseau, ça va induire des craquelures, ça va faire des tensions. On va avoir d'abord un verre qui va suinter avec l'humidité qui va faire sortir donc les ions, et c'est des phénomènes qui peuvent être rapprochés de ce qu'on abordera, je crois, un petit peu plus tard avec les cristallisations. Et donc ces verres vont aussi changer de couleur, se fissurer et puis finir par s'effriter. Donc là, ce qu'on veut, c'est garder une humidité stable. Donc il y a beaucoup de matériaux qui sont disponibles. En archéologie, on a beaucoup utilisé le gel de silice avec un indicateur bleu, chlorure de cobalt, qui est toxique, donc on essaye de les évacuer de plus en plus quand il y en a. Et donc c'est avec le chlorure de cobalt sert d'indicateur, puisqu'il devient rose au-dessus de 30% d'hygrométrie. Donc déjà, ça ne correspond pas toujours à l'hygrométrie qu'on veut garder. Pour le verre, on est plutôt à 40-50, le lignite 50-55. Mais voilà, c'est des matériaux qu'on va utiliser. Pour choisir un matériau tampon, donc pour stabiliser l'hygrométrie, qui va être capable d'absorber ou de désorber de l'humidité, il faut s'intéresser à son domaine d'efficacité maximum. Donc le gel de silice va être plus efficace pour des hygrométries faibles. Le prosorb entre 40 et 60, l'artsorb plutôt autour de 60-70. Donc là aussi, il y a différents matériaux, il faut les connaître, il faut avoir un minimum de notion de ce qu'on veut et des capacités des matériaux. On va aussi avoir besoin de s'intéresser à la vitesse de réaction. Il ne faut pas que ça réagisse moins vite que l'objet qu'on va vouloir conserver, ce qui est parfois le cas pour des bois gorgés d'eau traités qui sont très réactifs. Et donc là, peut-être le gel de silice ne suffira pas, par exemple. Et puis aussi, il faut savoir que ces matériaux ne réagissent pas de la même façon en absorption et quand ils absorbent de l'eau ou quand ils la rendent. Donc voilà. En archéologie, on s'est aussi servi un temps de solution saline, mais ce n'est pas forcément très efficace, surtout pour du stockage à long terme. Puis on a toujours ces problèmes de sel, de coulure, donc ce n'est pas des choses à long terme. Il y a d'autres produits qui existent dans les musées, mais qui ne sont pas forcément fractionnables. Alors que ce qu'on veut pouvoir, c'est adapter la quantité juste au volume qu'on veut conditionner. Ensuite, on va avoir des matériaux qui vont avoir besoin d'une humidité relative basse. Alors bien sûr, c'est les ferreux et les cuivreux qui vont avoir des corrosions souvent avec des chlorures et qui vont, donc c'est des corrosions qu'on dit actives, puisque la réaction chimique fait qu'à la fin, on a encore une attaque du métal qui pourrait rester, donc qui conduit à l'éclatement de l'objet avec des fissures, des écailles, une perte de surface. Je vous ai mis la pyrite parce qu'en fait, c'est le même type de réaction. Enfin, ce n'est pas la même chose, mais en tout cas, les sulfures de fer sont sensibles à l'oxygène et à la vapeur d'eau, avec là plutôt de l'acide sulfurique qui est créé. Donc pour ça, on va vouloir plutôt des atmosphères très sèches. Alors ce qui est le plus utilisé là, c'est pour la déshydratation, c'est plutôt des argiles qui sont plus efficaces, donc les sachets d'argile ou les tamis moléculaires qui sont plus petits. En fait, à chaque fois pour ces produits, ce qui compte c'est la porosité et donc la capacité à absorber l'hygrométrie. Dans tous les cas, c'est des matériaux qui sont réutilisables et régénérables. Et puis bien sûr, il y a l'aspect anoxie, puisqu'il faut aussi pouvoir idéalement retirer l'oxygène dans les contenants. Donc c'est vrai qu'en archéologie, on est d'abord avant tout sur des choses conservées à sec, on va dire, donc à moins de 30% d'hygrométrie, mais pour des pièces vraiment exceptionnelles, on va chercher à retirer l'oxygène. C'est pas une idée nouvelle. Donc là, vous avez une photo d'Édouard Salin en 46. C'est un archéologue, mais avant tout un ingénieur, qui a travaillé avec Albert-France Lanor. Et ils ont fouillé beaucoup de cimetières mérovingiens dans la Meuse. Et donc dans la maison d'Édouard Salin, il y a beaucoup d'objets de fouilles. C'est à côté de Nancy, château de Montaigu. Et donc, en 1946, il a publié ce système de boîte avec une mise sous azote des objets. Ils ont fait beaucoup de tests de vernis, de cire, d'inclusion dans des résines de métacrylate aussi, avec des problèmes dans certains cas. Et leur dernier test, c'était de mettre sous azote dans des boîtes de plexi les objets. Alors, on fait ça différemment maintenant. Donc c'est tout le matériel que vous connaissez peut-être parce que c'est aussi celui dont on sert pour les anoxies, pour tuer les insectes, pour éliminer les insectes. Donc tout ce qui est absorbeur d'oxygène qui est basé sur des sels de fer qui vont s'oxyder et consommer l'oxydation. On va avoir les films, on en a déjà parlé, les pinces à souder. On a aussi des réglettes qui permettent de fermer des sacs et qui sont plus facilement... qui permettent d'être réouverts plus facilement. On va vouloir tester la quantité d'oxygène. Il y a deux systèmes, un système qui est très onéreux, qui va être un oxymètre et qui va venir mesurer la quantité d'oxygène. Alors pour ça, on va percer le sac à travers une rondelle de caoutchouc, enfin c'est pas un caoutchouc, mais une mousse, qui va se resserrer quand on retire l'aiguille, donc ça ne perce pas le sac. Et on va pouvoir vérifier la quantité d'oxygène. Ou alors il y a les systèmes... des petites capsules qui changent de couleur, qui sont roses quand il n'y a pas d'oxygène et qui sont bleues au-delà de 0,5% d'oxygène. Et ça, c'est beaucoup moins cher. Par contre, il faut avoir au moins un film transparent. On peut aussi utiliser le suivi de la quantité d'oxygène pour voir la vitesse d'altération d'un objet. Et ça, c'est des choses qui se font de plus en plus. Ça a été très étudié au Danemark par Henning Mathiesen. Pour des matériaux organiques comme pour du métal. Et là, c'est sorti d'une de ses publications. Donc, c'est des tout petits capteurs d'oxygène. C'est des choses qui sont mises au point pour les cultures cellulaires et qu'on vient interroger avec une fibre optique. Et selon la réponse, on va savoir quel est le taux d'oxygène. Ça permet d'être très précis. Alors, il y en a qui sont adaptés à 0,5% d'oxygène, d'autres 0,10% d'oxygène. Et on va vraiment pouvoir suivre la quantité d'oxygène dans le sac ou dans un flacon. Il y a plusieurs possibilités. Et là, par exemple, dans cet exemple, on peut voir sur la courbe la quantité d'oxygène qui diminue très rapidement pour l'objet non traité et des tests qui ont été faits sur le même objet après un traitement et après un traitement et une cire, et on voit que la consommation d'oxygène est beaucoup moindre. Donc c'est des choses qui permettent de suivre l'altération et de vérifier l'efficacité d'un traitement. Enfin, pour les polluants, on a des objets qui vont vraiment être sensibles aux polluants. On a parlé tout à l'heure des coquillages ou des calcaires avec la maladie de Byrne. Les plombs, ça va être pareil. Ils vont être très sensibles aux vapeurs organiques. Et puis, parfois, c'est les objets eux-mêmes qui émettent des objets. Alors ça, c'est pas un exemple archéo, c'est un exemple... C'est en cours au MAD, on a des films avec des nitrates de cellulose. Et là aussi, l'altération va émettre des polluants et les polluants acides vont venir continuer d'attaquer le reste du film, le contenant, les autres films qui sont présents. Et donc, c'est des réactions en chaîne et qui s'arrêtent que quand tout est détruit. Alors, les absorbeurs de polluants, on en a de plusieurs sortes. On va avoir des choses qui sont très larges. Donc, c'est le principe du purafil qu'on va pouvoir mettre dans les sacs. Le purafil, c'est un mélange... d'aluminium activé et de charbon actif. Donc l'aluminium activé, c'est les petites billes roses qui vont changer de couleur quand elles sont chargées en polluants. C'est toujours pratique à travers un sac de voir s'il y a eu absorption de polluants ou pas. Le charbon actif aussi est très large. L'oxyde de zinc aussi. C'est toujours la même chose. C'est basé sur des matériaux qui sont microporeux et qui vont pouvoir absorber. D'ailleurs, parfois c'est réversible, parfois ça ne l'est pas, selon les matériaux. On peut avoir du charbon actif aussi en textile. J'ai pas de photo, enfin de toute façon c'est pas super sexy comme photo, mais les MOF, donc qui sont les choses qui sont en train d'être étudiées pour justement venir absorber les polluants, mais de façon vraiment très très spécifique. Et puis sinon on a des matériaux qui vont être vraiment ciblés sur un type de polluant parce qu'ils vont contenir des particules métalliques. Donc, par exemple, le coton chargé en particules d'argent, il marchera que pour les gaz soufrés. Pareil avec les films plastiques. Voilà, et je pense que j'ai été un petit peu longue. Bon, et voilà, bah, merci de votre attention. Juste pour finir, oui, pour les polluants, c'est là où on met en balance l'étanchéité. Ou justement l'étanchéité, ou au contraire ne pas avoir une bonne étanchéité et plutôt une boîte qui va être où va y avoir une ventilation. Et encore pour finir encore, c'est vrai que ça fait beaucoup de plastique et que c'est des domaines quand on veut faire vraiment des sacs étanches ou des contenants étanches, c'est difficile d'aller outre, sauf éventuellement. Ces petits dessiccateurs, ces boîtes qui vont être à la fois étanches et pas forcément en plastique. Voilà. Cette fois-ci, j'ai fini.
Très bien. Avez-vous des questions ?
C'est justement sur le dernier commentaire. Oui. Donc, si j'ai bien compris, il faut faire attention quand il y a des polluants, qu'ils ne soient pas trop hermétiques, c'est ça.
En fait, c'est si les polluants viennent des objets eux-mêmes, viennent des collections elles-mêmes, il faut vraiment là se poser la question de qu'est-ce qui vaut mieux. Et tout dépend, je pense, du système de rangement global. Si on arrive à les extraire des collections dans un espace à part, on peut avoir des contenants qui ne vont pas être étanches. Mais si on veut les... Enfin, oui, tout dépend du système de rangement et du système. Mais c'est vraiment des choses qui sont à surveiller. Et si les polluants viennent des objets, les mettre dans des sacs hermétiques, on va au contraire les concentrer à l'intérieur. Et dans certains cas, on va au contraire accélérer les réactions chimiques. Donc en fait, il faut connaître les altérations, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas des mécanismes qui sont toujours bien connus. Mais là, pour les films en nitrate de cellulose, la question se pose vraiment. En fait, on a eu deux possibilités. On a un collègue, Romain Pérez, qui est spécialiste de photos, qui nous a fait justement une proposition avec une double poche en escale, avec absorbeur de polluants, absorbeur de tamponnage d'humidité, le tout mis en frigo. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais les derniers stades de dégradation de ces films peuvent avoir une température d'auto-inflammation à 40-45 degrés. C'est pour ça qu'on avait... Ça a été produit, utilisé jusque dans les années 50, et il y avait des cas d'incendie. Ça prend feu tout seul dans les bobines. Et dans les, enfin. Donc là, il faut, au contraire, il ne faut pas du tout être étanche, parce que, ou vraiment surveiller et être sûr d'absorber vraiment tous les polluants. Et de les absorber plus vite, plus vite, au moins aussi vite qu'ils ne sont émis. Parce qu'il y a toujours un temps de réponse dans ces produits. Donc, c'est là où on a envie aussi de les laisser plutôt ventiler, mais dans un endroit où il n'y a rien qui puisse être attaqué. Il n'y a pas de solution miracle, malheureusement. C'est un peu au cas par cas.
Bonjour, j'ai une question par rapport à la stabilisation de la hygrométrie. Ah. Est-ce que vous séparez dans des pièces un peu différentes les objets qui doivent être conservés à des hygrométries basses de ceux qui doivent être conservé à une hygrométrie haute?
Ah, mais ça dépend des espaces dont dispose chaque personne. En général, dans les CCE, enfin peut-être Madame Mathieu voudra répondre, mais en général, il y a une pièce, il y a le vrac, on va dire, les matériaux les moins sensibles qui sont dans des locaux très grands, et puis il y a une salle plutôt réservée pour les métaux, avec une hygrométrie un peu plus basse, et une salle... avec une hygrométrie plutôt stable et à 55 pour les matériaux organiques. Mais ça dépend vraiment des disponibilités des lieux, en fait, dans les chantiers. On a vu que des dépôts de fouilles, ça pouvait être des caisses dans un grenier. Donc, mais idéalement, oui, il faudrait qu'il y ait le gros des collections qui ne nécessitent pas de contrôle strict dans un espace, et puis deux espaces, un pour les organiques, un pour les... Et pour qu'en fait le matériau tampon n'ait qu'à stabiliser un peu plus, mais que l'espace à l'échelle au-dessus, l'échelle de la pièce, soit déjà un peu plus adapté. Mais je pense que là, enfin, je ne sais pas ce qui peut être répondu par rapport au CCE, en fait, ce qui est possible et par rapport au dépôt de fouilles. Après, ça dépend aussi de la volonté de chaque dépôt. L'unité d'archéologie de la ville de Saint-Denis, par exemple, a deux réserves, une pour les organiques, une pour les métaux, et puis après, à gérer la façon dont c'est rangé. C'est même plus rangé par site, c'est rangé par objet, par typologie d'objet. Ça, c'est pas possible pour un site beaucoup plus important ou pour un ensemble de sites en CCE. Donc ça, c'est la façon de ranger, c'est presque scientifique. Des collections avant d'être des questions de conservation préventive. Parce que tout ce qu'on dit là, où on va sortir des objets pour avoir un micro-conditionnement, on n'aime pas sortir les objets des collections, parce que c'est comme ça qu'on les, c'est comme ça qu'on les perd. Donc c'est toujours... Il n'y a pas de solution, ça dépend de chaque site, on va dire. Pas de solution unique.
Oui. Encore du temps pour les questions.
Merci, j'en profite un petit peu. On a commencé une expérience présentée par Alison avec du film Escalneo et puis des capsules avec des sachets desiccants et des oxygénants. Et puis là, j'ai une commande de boîte Lock and Lock qui va arriver. Donc merci, c'était intéressant. Et c'est un sujet, une question que je me pose, parce qu'en fait, les objets qui sont en oxydation, on n'a pas vraiment les moyens de traiter leurs altérations. Donc on essaye de les protéger et d'arrêter l'altération, mais en fait, on ne va pas la traiter au préalable. Et est-ce que vous auriez un point de vue là-dessus? C'est pas facile, peut-être.
C'est pas facile. Alors déjà, je n'ai pas parlé, parce que ça a déjà été évoqué ce matin, des sachets RP qui, justement, gèrent à la fois le... Et c'est ça, et qui peuvent gérer à la fois l'hygrométrie, l'oxygène et parfois des polluants aussi, je crois, pour certains. Parfois les polluants. Ça dépend les niveaux. Les traitements, alors je connais plus les traitements de déchlorération pour les métaux. C'est pas toujours totalement efficace. Et même un objet traité devra faire l'objet au moins une hygrométrie basse. Et idéalement aussi, si on veut vraiment les garder à long terme, sans avoir à entretenir trop souvent, sans oxygène. Par contre, c'est des quantités énormes, on ne peut pas toujours traiter. Les traitements ne sont pas toujours totalement efficaces. Je ne sais pas ce que ça donne pour la pyrite, la marcassite. Je n'ai pas parlé parce qu'on a aussi en archéologie des briquets en marcassite, mais ça, c'est vraiment le domaine des muséums, je pense. On a aussi beaucoup de problèmes avec les bois gorgés d'eau où il y a eu des clous en fer parce qu'on a des dégradations bactériennes avec justement des sulfures de fer et qui réagissent dans le bois, qui acidifient. Il n'y a pas de traitement idéal. Il n'y a pas de traitement qui permette vraiment de stabiliser complètement, en fait. Donc de toute façon, il faut... C'est toujours mieux si on peut traiter, mais la quantité...
Merci.
On est allé très loin, puisqu'il y a une des épaves trouvées à Lyon, par exemple. Les zones de bois autour des clous en fer ont été éliminées, ont été curées, pour ne pas avoir à gérer la question du sulfure de fer dans le bois. Ce qui est quand même... C'est très discutable d'un point de vue déontologique, en fait. Supprimer de la matière pour ne pas avoir à la stabiliser, parce qu'on sait qu'on ne peut pas la stabiliser. Donc ça, on le fait, on ne le fait pas. Ça se discute de toute façon. C'est très intéressant comme discussion. Mais je n'ai pas de solution.
Ok. Moi, je me permets
peut-être de rebondir un petit peu, effectivement, parce qu'il y a le cas des bois gorgés d'eau et puis il y a le cas de la pyrite. Ce n'est pas toujours exactement le même, parce que les bois gorgés d'eau, c'est des sulfures qui sont encore plus réduits. Donc encore plus réactif.
Oui.
En paléontologie, souvent, on a l'étape finale, les sulfures qui sont FeS2. Alors, on ne va pas dire qu'ils sont très stables, bien évidemment, mais quand on regarde un peu les mécanismes d'altération, quand même, l'eau, c'est le vecteur prioritaire. Donc, couper l'eau, c'est déjà faire beaucoup. Voilà. Après, on peut le couper plus ou moins, ça va dépendre de ce qu'il y a autour. Effectivement, quand on a du bois, on ne peut pas couper à 0% parce que le bois va exploser. Enfin, voilà. On a d'autres typologies, mais... Et malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas rêver là-dessus.
Okay. Moi, j'ai une petite question du coup de béotien, parce que finalement, les objets qui nous arrivent souvent relativement bien conservés, stables, entre guillemets, que ce soit du matériel archéologique depuis des siècles et des millénaires, ou du matériel paléontologique depuis des millions d'années. Et en fait, c'est peut-être une évidence, hein, mais l'idée, est-ce que ce n'est pas de se rapprocher au maximum des conditions d'enfouissement ? En sachant que toutes les conditions d'enfouissement sont différentes. Donc forcément, ça amène des difficultés. Et donc ça, c'est ma première question. Ma première remarque. Et en fait, ma question, tout à l'heure, vous disiez que vous enregistrez parfois les conditions de dépôt au moment de la sortie du matériel pour essayer, effectivement, d'avoir une estimation de l'hygrométrie, etc., pour le reproduire après en conservation. Vous n'avez pas dit ça ?
Non, je ne crois pas. Non, mais on.
Parce que j'ai, à un moment donné, je pense que vous avez dit oui, c'est les conditions enregistrées au moment de la fouille.
C'est-à-dire qu'on essaye de les garder, de les garder jusqu'au traitement, en fait.
Jusqu'au traitement.
C'est ça.
Mais donc, ça ne sert pas à réfléchir à la conservation particulière.
On peut le faire, mais les solutions, on peut pas toujours les reproduire, en fait, mais les reproduire précisément, non, mais justement, conserver sans oxygène, c'est ce qui a pu être le cas dans le sol, des milieux anaérobies, où donc on peut essayer, mais le réenfouissement a été déjà pratiqué, en particulier pour des matériaux organiques. Okay. Ouais, ça a déjà été vu. Après, il faut pouvoir suivre les altérations dans le sol. Ouais.
Okay. Ah, il y a encore Véronique.
Là, c'est une vraie question. Effectivement, cette idée de casser le moins possible l'environnement de l'objet au moment de l'excavation, elle est intéressante. Je ne sais pas jusqu'à quel point elle est pratiquée. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer que... Est-ce que les gens le font de conserver l'objet dans sa gangue ? C'est-à-dire, ça veut dire prélever bien beaucoup plus large, et puis entourer peut-être de cellophane ou de mettre dans un contenant étanche jusqu'au moment du traitement. Est-ce que c'est pratiqué couramment ? Est-ce que c'est pratiqué de façon très ponctuelle ? Jusqu'à quel point, effectivement, c'est rentré dans les mœurs ?
C'est beaucoup pratiqué pour tout ce qui est bois et cuir. gorgées d'eau pour les matériaux organiques en général. Et les prélèvements, ça dépend aussi si l'objet est identifié clairement dès la fouille, mais oui, faire des prélèvements, c'est assez couramment utilisé sur les sites.
Okay. Très bien. Merci beaucoup. Nous allons passer à... Donc passer à la dernière présentation de cette matinée avec Marie-Béatrice Forel, donc maître de conférence au Muséum, voilà. Responsable scientifique des collections de paléontologie, et Damien Gendry, assistant de collection à l'Université de Rennes, sur la restitution de l'enquête auprès du réseau Géocollection.
Merci.
C'est nouveau.
Alors attendez, il faut qu'on réussisse à mettre en plein écran.
Décalage, mais tu peux commencer.
Ok, c'est bon. Merci beaucoup, Gaëlle. Bon, on va finir cette journée en faisant une petite pause dans toutes les présentations qu'on vient d'avoir pour que vous compreniez un petit peu comment s'est construite cette journée et sur la base de quelles interrogations. Donc, Damien et moi, on a été choisis par le comité de pilotage du réseau Géocollection pour interagir avec l'INP, avec nos collègues, et pour essayer de construire cette journée pour que, dans les deux sens, on puisse bénéficier des discussions. Et toutes ces discussions au sein du comité d'organisation de notre journée, elle s'est appuyée sur un questionnaire qu'on a construit avec Véronique Rouchon, Damien, Anne Médard, qui est quelque part, et moi, qu'on a bien détaillé, hein. Il y a eu quand même beaucoup de questions, et pour lesquelles on vous remercie tous, et toutes les personnes qui ne sont pas là, mais qui pourront nous suivre en ligne plus tard, d'avoir répondu souvent avec beaucoup de détails, ça nous a été très très important. Donc on va vous expliquer un petit peu tout ça, il y aura beaucoup de proportions, ça va peut-être être un petit peu embêtant, mais on est d'accord avec ça, mais gardez bien en tête que tout ça, c'est un petit peu une capture d'écran de quelles sont les relations entre la communauté des personnes qui sont responsables des collections de sciences de la Terre en France, en 2023-2024, et la conservation des collections dont ils ont la responsabilité. Donc c'est vraiment un état des lieux. Peut-être qu'on pourra en refaire un dans quelques années, et c'est vraiment pour nous important pour avancer. Et on va commencer par Damien, qui va vous présenter un petit peu, très rapidement, l'histoire du réseau Géocollection.
C'est ça, donc la genèse du réseau, ça remonte à 2021, en fait, c'est lié à la Réunion des sciences de la Terre, donc un gros colloque qui a eu lieu à Lyon. Donc on a discuté en fait de la nécessité du réseau, un réseau pour quoi faire, et les différents intérêts des personnes qui pouvaient avoir donc à créer un réseau sur les collections de sciences de la Terre. Après, donc Sylvain Charbonnier et Marie-Béatrice donc ont lancé un colloque, le premier colloque sur les collections de sciences de la Terre, qui a eu lieu à Villars-sur-Mer en septembre 2022. Donc c'est vraiment là que en fait, le réseau a débuté. Donc on a pu partager sur les besoins qu'on avait réellement et les mettre en commun. Tout ce qui est mettre en commun aussi la gestion des collections, les différents procédés qu'on peut avoir, la gestion des données sur les collections, c'est aussi un gros paquet de notre activité. Et donc suite à ça, à ce colloque, on a pu créer une liste de diffusion, donc la liste Géocollection. Il y en a pas mal d'entre vous, je pense, qui sont dessus. Je peux redonner le lien à ceux qui le voudront, pour vous, si vous n'adhérez pas encore. Donc c'est géocollection@liste-univ-rennes.fr. On pourra en reparler après. On a une mailing list, en fait, comme la Muséum List. On peut échanger autour des pratiques qu'on peut avoir, les différentes questions, etc. Et on a lancé à côté de ça un forum. Pour l'instant, il ne fonctionne pas beaucoup. on compte sur vous pour l'alimenter. Il ne faut pas hésiter si vous avez des besoins de détermination. C'était un peu plus dans l'objectif de déterminer des spécimens ou des échantillons, dans le sens où sur la Muséum List, si, enfin la géocollectionniste. Si on lance des photographies, des discussions, on reçoit des vingtaines, trentaines de mails, en plus des 50 qu'on a quotidiennement, donc ce qui fait beaucoup. Donc c'était pour désengorger un peu nos boîtes mails qu'on avait eu l'idée de ce forum. Donc n'hésitez pas à vous en servir, à vous en emparer, il suffira de nous demander le lien. Voilà. Et on en a reparlé et fait un bilan en octobre-novembre 2023 à la réunion des sciences de la Terre de Rennes, où on avait une session sur les collections sciences de la Terre, et une table ronde du réseau pour faire un petit bilan, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'ici, les points d'avancée, les projets donc de formation, où vous avez la première journée aujourd'hui en formation professionnelle du réseau. Et donc les projets, il y a toujours la réalisation d'un beau livre sur les collections nationales. En gros, c'est faire un livre sur le même modèle que le muséum pour le métier de paléontologue. Donc, des belles images, un petit texte à destination du grand public. Quelque chose d'assez simple. Donc on va continuer là-dessus cette année. Oui. Ensuite, il y a plusieurs membres du réseau Géocollection qui participent à un groupe de travail pour la géothèque virtuelle du CNRS. Alors là, ça concerne surtout les universités. Donc l'idée, c'est de mettre toutes les données naturalistes sur la base de données RecolNat, sur le portail RecolNat, et d'agrémenter ces données qui concernent les universités de liens vers les différentes bases de données qui existent déjà, donc les données géochimiques sur les échantillons, les données de forage, etc. Donc ça viendrait en complément. Et vraiment, les données naturalistes, on veut que ce soit centralisé sur la même base de données pour éviter de verser plusieurs fois les données, ce qui est un gros travail. Le site internet du réseau, jusqu'ici, on n'a pas beaucoup avancé. On a été un petit peu bloqué pour des questions informatiques avec le CNRS, mais j'ai reçu les codes hier, donc on va pouvoir avancer avant l'été. Et enfin, l'idée, c'est de faire des vademécum, donc des fiches pratiques sur les différents problèmes qu'on peut rencontrer dans conservation et restauration des collections. Des petites fiches très simples, problèmes, solutions, qu'on mettra sur le site internet. Donc le site internet, c'est quelque chose de simple. Qu'est-ce que le réseau Géocollection? Et une page dédiée justement à une documentation où on pourra retrouver toutes ces fiches qu'on pourra additionner au fur et à mesure qu'on va les réaliser. Donc à la suite de chaque journée de formation, l'idée c'est de pouvoir faire des petites fiches comme ça, pratiques, que vous pourrez consulter dès qu'il y aura un problème.
C'est parti.
Donc pour le questionnaire, il y avait à peu près 89 personnes sur la liste Géocollection à l'époque, et donc on a eu 39 réponses. C'est un taux à peu près correct pour des enquêtes, apparemment, dans les réseaux. Aujourd'hui, on est à 118 membres sur la liste Géocollection. Donc on augmente tout le temps, donc on élargit notre réseau. Donc, ici, ça concernait principalement des chargés de collection, comme vous pouvez voir. Pour deux tiers des musées et muséums, donc c'est là qu'on retrouve le plus de chargés de collection, et pour un tiers des universités. Au niveau du volume des collections, en fait c'est très variable. Il y a des petites institutions comme des grosses, de 5000 spécimens ou échantillons à 60 millions. Donc, le muséum l'emporte gros la main. L'Université de Lyon aussi, avec 10 millions de spécimens par exemple. Donc il y a pas mal de forages aussi, 9 à 13 km, et donc ça représente 13 500 notices. Ou l'eau à inventorier, pour le moment. Au niveau des formations, ce sont principalement des personnes du muséum qui ont suivi les trois premières que vous voyez. Donc c'est dépoussiérage des spécimens, les principes fondamentaux de la conservation préventive, les matériaux de conservation liés aux collections sèches. Et il y a aussi eu des formations liées à l'OSIM, proposées par l'OSIM, en plus de l'expérience que chacun peut avoir dans son milieu professionnel. Au niveau des budgets approximatifs pour les matériaux de conditionnement, c'est pareil, c'est très variable. En fait, plus vous êtes une grosse institution, plus vous avez de spécimens et plus vous allez avoir besoin de budget. Donc, je vous laisse regarder les résultats. Et on va attaquer le dur du sujet. Je vous ai mis de très beaux spécimens en rennais, hein, qu'on utilise nous en TP. Donc, vous avez un bel échantillon de pyrite qui va finir potentiellement comme le petit poisson le gros poisson qui était au-dessus. Donc c'est un poisson qui devait être du Thoracien d'Holzmannen en Allemagne. Moi, c'est difficile à reconnaître aujourd'hui. Et en fait, ce poisson, on ne s'en sert pas comme pour sa nature ichtyologique, mais pour montrer justement la dégradation de la pyrite dans les travaux pratiques avec les étudiants. Donc là, il n'en reste pas grand-chose. Et à côté, vous avez un crinoïde classique de ces gisements d'Holzmaden, donc avec un beau jaunissement donc sur le côté droit de la diapo. Donc ces fameux spirites, ben, à peu près tout le monde, ou une grosse partie en tout cas, l'ont rencontré dans les collections avec 57%. Ça concerne à la fois la paléontologie, pour les ammonites, tout ce qui est fossiles des schistardoisiers, des poissons, de la paléobotanique, les reptiles, les mammifères, les minéraux, pour 10 réponses, un peu la géologie avec des granitoïdes, donc dans les sulfures, les black shale, les carbonates, les schistardoisiers encore, les roches sulfurées, les nodules polymétalliques, et puis il y aura aussi des météorites. Et enfin dans les forages, où évidemment on va retrouver des milieux anoxiques potentiellement recoupés, et avec de la pyrite, micropyrite, marcassite, etc. 61% des personnes ont entrepris des actions. Ça a pu être du reconditionnement pour la plupart, un isolement et un traitement. Ça, c'est en général ce qu'on fait, assez classiquement. Puis le suivi photographique, c'est assez important, si on veut y arriver. Et destruction quand c'est irrémédiable. En général, le suivi photographique va avec la destruction, pour ne pas perdre la donnée. Et de temps en temps, on essaye de la restauration. Vous voyez que les résultats sont assez mitigés, puisque 61% des personnes restent mitigées et 26% ne sont pas satisfaits du tout. Donc en fait, il y a globalement un recul insuffisant sur les méthodes à appliquer pour résoudre ces problèmes liés au sulfure. Et les altérations sont en fait très aléatoires, suivant les gisements, les matériaux, etc. Donc au final, il peut y avoir des spécimens très précieux qui peuvent être détruits, notamment des météorites, et il y a peu d'informations sur les méthodes.
Alors, on continue dans la galerie des horreurs, et cette fois-ci, on rentre dans le volet des croissances cristallines en collection. Et ici, vous avez une grande variété de croissances cristallines de différentes natures qui illustrent différentes collections en France. Donc, on a plusieurs collections au muséum, les collections qu'on appelle aujourd'hui Terre et Univers, les collections de paléontologie, mais aussi les collections de Montpellier. Par rapport aux questions qui ont été posées aux membres du réseau, on se rend compte que 52% des praticiens, entre guillemets, ont déjà rencontré des croissances de cette nature dans les collections. Donc c'est un phénomène qui est en réalité très fréquent, qu'on observe principalement sur les collections de géologie, particulièrement dans le cas des évaporites et de paléontologie. On en parlera plus spécifiquement cet après-midi. Dans 35% des cas uniquement, ça fait réellement pas grand-chose, on a entrepris des actions. Alors ces actions, ça a été du nettoyage et du reconditionnement principalement, des études des mécanismes de croissance cristalline, et là en l'occurrence on a eu 3 réponses, et globalement je crois que les 3 réponses c'est notre petit groupe, alors pas toi, c'est Clara, Anna Chiara et moi, donc c'est un petit groupe qui travaille activement sur ces questions, on a aussi tenté de réguler l'humidité. En termes de satisfaction, comme Damien vient de le dire tout à l'heure pour la pyrite, là aussi c'est quand même très 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 partagé, avec 39% des personnes qu'on a interrogées qui étaient plutôt contentes, avec donc pas d'observation de reprise, donc une stabilisation des altérations, mais comme cette observation quand même un petit peu relativisée en se disant que bon ok, mais c'est la première étape d'un processus très long. Donc on n'a encore pas de recul sur toutes ces méthodes. Un doute aussi de façon assez répandue dans la communauté à 35%, parce que l'environnement est vraiment très instable, parce qu'on a des résultats aléatoires selon les collections, et à 26%, pas du tout content, parce qu'on observe une aggravation de la situation. Et tout ça, qu'est-ce que ça nous montre ? Eh bien que on comprend absolument pas les mécanismes, et que tant qu'on comprendra pas les mécanismes de ce qui se passe sous nos yeux, ce sera sans doute très compliqué de réussir à trouver des solutions adaptées. On a un certain nombre de collègues qui ont choisi de ne pas entreprendre quoi que ce soit, principalement par manque de temps et, comme je viens de le dire, par manque de connaissances sur les méthodes et donc sur les mécanismes qui sont en cours dans les collections. On poursuit, nouvelle galerie des horreurs, donc les moisissures en collection. Ici, vous avez principalement donc des collections de carottes. Donc je remercie Eva en face de moi et Lola, qui n'est pas là, mais qui m'a fourni des photos, et tout un tas de collections de paléontologie. Alors ici aussi, c'est un phénomène qui est extrêmement fréquent. À 67%, nos collègues l'ont déjà observé dans les réserves, à peu près sur tout, sur les étiquettes, sur les boîtes, les cellules en carton, et sur les spécimens aussi, et sur les portoirs. Donc les moisissures, globalement, à partir du moment où on en a partout. 57% d'entre eux ont entrepris des actions, alors ça a été du nettoyage à l'alcool, du reconditionnement majoritairement, du changement de conditions de stockage de façon générale, des chantiers de décontamination, alors là par fumigation, l'intervention d'un prestataire externe, l'isolement et le suivi. Ça, c'est un petit peu plus marginal. Bon, on n'a pas vraiment eu de réponse sur la satisfaction, donc j'en déduis que qui ne dit mot consent, donc globalement oui. Et pas non plus de réponse sur ce qui a limité l'action des différentes personnes en charge des collections. Je me dis que là, il y a peut-être quelque chose à creuser pour aller plus loin et pouvoir en discuter un petit peu plus. On continue cette fois-ci avec les altérations mécaniques dans les collections. Et là, vous avez aussi une grande variété de types d'échantillons, avec des échantillons sur la gauche qui nous ont été envoyés par Damien. En haut à droite, des préparations de micropaléontologie pour microscopie, et en bas, des collections de Montpellier de mammifères. Alors ici aussi, c'est quelque chose de quand même un petit peu moins documenté. 29% des personnes nous disent avoir déjà rencontré des phénomènes de cette nature, donc liés au délitement ou au gonflement des spécimens, principalement. Ça correspond, ça touche les collections de paléontologie, donc les fossiles qui sont retrouvés dans des formations argileuses, les invertébrés. Alors on a aussi tout un tas de cas sur les spécimens de Villers-sur-Mer, les microfossiles montés, collés, notamment avec des vernis, et également des cas en géologie, ce qui concerne plus particulièrement la pétrographie et les carottes argileuses. Alors seulement 10%. Des personnes qui ont répondu ont entrepris des actions. Principalement, ça a été du reconditionnement, on peut le comprendre, on peut se dire que bon, à partir du moment où c'est cassé. 41% des répondants, bon, voilà, un petit peu mitigés, parce qu'il n'y a pas vraiment de contrôle fin, donc il y a peut-être juste un constat. Ok, il y a des altérations mécaniques, on l'observe, ça n'évolue pas, voilà, on ne va pas beaucoup plus loin. Ce qui a bloqué les actions face à ce type d'altération, ça a été principalement des problèmes de temps, de coût et d'espace, et encore une fois, le fait que les dommages sont irréparables. Donc on passe peut-être au plus urgent, au plus grave et au plus pressé. Dernier élément, celui des changements d'aspect en collection. Ici, ce que je vous ai mis, c'est principalement des changements d'aspect qu'on a observés sur des collections microscopiques, dans les collections de micropaléontologie au Muséum national d'histoire naturelle. Alors ici aussi, seulement 33% des personnes ont observé des changements de couleur, des changements d'aspect, principalement en géologie, alors tout ce qui concerne les minéraux hygroscopiques, les sels, la vivianite, les carottes qui ont été ouvertes et les carottes qui se craquellent. En paléontologie, on a beaucoup de phénomènes de ternissement et également des problèmes avec les moulages. 10% des personnes qui ont répondu ont entrepris des actions. Ça a été changer l'environnement et principalement l'humidité, la lumière, reconditionner et suivre. Bon, là aussi, pour principalement des résultats mitigés ou pas trop agréables, avec un contrôle, pas vraiment de contrôle régulier, donc c'est un petit peu compliqué d'aller plus loin, et en fait, pas de solution. Et la majeure partie des personnes qui n'ont pas entrepris d'action, c'était parce que déjà, et ça Eva, tu pourras nous le confirmer, il y a une perte naturelle de la coloration lorsque les carottes sont ouvertes. Donc c'est un phénomène qui est naturel, et encore une fois, le suivi qui est difficile, parce qu'on n'a pas du tout de recul en fait sur notamment les échantillons anciens. Donc parfois on part un petit peu ex nihilo, et c'est compliqué de comprendre ce qui se passe.
Donc on va passer à la deuxième partie qui concernait les matériaux. Donc on vous a demandé quels étaient les contenants que vous utilisez. Donc globalement, les boîtes lab, les sachets mini-grip en plastique dominent. avec pas mal de tubes plastiques associés pour les petits spécimens, les sacs plastiques. Il y a aussi pas mal de tubes de flacons en verre. Et pas mal de personnes n'ont également pas complété ce champ. Pour les précisions, pour les boîtes et les tiroirs en bois, il peut y avoir des caisses pour les carottes en CTP, donc c'est les contreplaqué, pour les caisses de stockage et de transport, ou la matière en sapin. Il y a des tubes en plastique, donc pour les carottes, elles peuvent être stockées à l'intérieur de tubes sciés en deux, ou être couvertes de films plastiques souples type cellophane, ou parfois être dans des enveloppes en plastique. Concernant les supports et les protections, on retrouve un peu de tout, du papier de soie, de la mousse, du papier bulle, du coton et du journal. Bon, on n'a pas trouvé de sopalin, a priori, mais je pense qu'il y en a quand même. Et pas mal de personnes n'ont pas complété cette réponse-là. Pour les mousses, en fait, ça peut être utilisé pour couvrir, pour boucher des trous quand il y a eu des prélèvements dans des forages ou un bloc de roche. Et le papier de soie et la mousse pour caler dans des caisses. Dans les parties autres, il y a les films plastiques et les gaines toujours autour des forages, par exemple. Le papier qui peut être teinté au bleu de Prusse. Des housses aluminium pour recouvrir intérieurement les matières plastifiées, donc pour l'étanchéité. Des supports en résine ou en plâtre, du Tyvek. Donc en fait, il y a tout un tas de matières. Donc je pense qu'aussi là-dessus, il y a un gros travail à faire de recensement et puis de petites solutions à apporter. On avait posé une question sur les datations de ces matériaux, mais en fait, c'était difficile d'y répondre pour relier la matière à une année ou une période. Et sur ces matériaux, est-ce que vous avez constaté des problèmes d'altération? C'est oui à 47%, souvent sur des plastiques, des sacs, des films, des caisses plastiques qui ne sont pas forcément assez solides, qui finissent soit par, avec le poids, se déformer, voire à craquer, casser. Des cartons, des mousses ont pu présenter des altérations, ainsi que les résines. Donc, quel type d'altération il peut y avoir? Sur les résines, ce sont des dépolymérisations, en général, donc le point 1 et le point 4, des effritements, comme sur la mousse que vous voyez ici, donc ça c'est très courant, ça finit même parfois à faire des matières un peu collantes en forme de gelée, et des jaunissements, encore une fois, potentiellement sur des résines. Connaissez-vous la composition de ces matériaux? C'est oui à 47%. Donc en fait, on n'a pas vraiment de détails associés à cette réponse-là. C'est pas forcément évident de trouver les réponses sur Internet quand on cherche la composition d'un matériau. Donc on pourra peut-être remédier à ça un peu plus tard. Et est-ce que des types de conditionnement ont été exclus? C'est oui à 74%. Donc globalement, ça va concerner les mousses. Donc globalement, on tire tiré. Les cuvettes en plastique et les cuvettes cartonnées. Le papier et les papiers bulles. Donc papier bulle qui peut se craqueler et finir en petites paillettes. Et notamment, les papiers vont attirer tous les petits insectes. Il y a les caisses plastiques aussi qui vont parfois être retirées pour une réponse. Et globalement, tous les matériaux qui vont se déliter.
Après avoir fait cet état des lieux, comme je vous disais, de la relation qu'entretiennent les responsables de collection avec les problèmes de conservation, on les a interrogés sur la nécessité et la demande de travailler à des références communes de travail qui pourraient être diffusées, et en s'interrogeant d'abord sur les pratiques qu'on a tous concernant la littérature. À savoir, est-ce que vous avez déjà ou traditionnellement interrogé la littérature qui traite d'autres types de collections? C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec toutes les interventions. Et la réponse a été oui à 29%. Donc il y a sans doute beaucoup de choses à creuser ici. On a également demandé, est-ce que vous pensez qu'il serait intéressant et utile de proposer une documentation française, comme vous présentez un petit peu Damien tout à l'heure, qui synthétiserait un petit peu tous les points de conservation curative, préventive, des collections dont on a tous la responsabilité. Alors là, ça a été sans appel, oui à 100%. Et évidemment, parce qu'on ne veut pas juste qu'on nous dise oui, on veut qu'on s'engage à nous aider. Donc on a interrogé nos collègues, est-ce que vous seriez intéressés pour prendre part à des groupes de travail? La réponse a été oui à 72%, donc on vous remercie et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc en dessous ici, vous avez un petit peu la liste, juste à titre indicatif, parce qu'on essaie de repérer les personnes qui ont répondu oui, la liste des institutions qui prendront part à ce travail commun. Et pour finir, on se projette un petit peu plus dans l'avenir et on a interrogé de façon ouverte la communauté au thème qui, au-delà de ce qu'on a un petit peu exploré là avec le questionnaire, et on voit qu'il y a beaucoup de choses à discuter, des thèmes qui vraiment spécifiquement sont demandés par chacun de nos collègues. Alors, ils sont extrêmement variés. Alors, on a évidemment ce qu'on a commencé aujourd'hui, l'aspect des altérations, la pyrite, la maladie de Bain, comment stabiliser un échantillon en cours de dégradation, avoir des retours d'expérience sur des actions de prévention et ou de curation. Tout un volet sur les contenants, on a un petit peu commencé tout à l'heure, mais vous allez être très sollicités, les contenants inertes et écologiques, tout un volet aussi sur les plastiques et les mousses. Alors aussi un volet sur la préparation et la restauration, avec, je pense, là un gros point d'achoppement, les dégagements et préparations en paléontologie, et savoir à qui s'adresser pour la restauration d'une pièce ou d'une roche. Alors, je pense que ça peut être assez facilement mis en œuvre sous la forme d'un petit annuaire. Donc ça, on va y réfléchir. Le volet de la gestion, qui aussi est une grosse question pour nous tous. Alors, toutes les questions de sécurité, la radioactivité, les minéraux dangereux, on a parlé encore hier avec Pierre. La question du stockage, les conditions optimales. Comment bien stocker les collections, quel matériel, dans quelles conditions. Organiser des fouilles, c'est-à-dire organiser des fouilles de façon, un petit peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, de la façon la plus cohérente pour conserver le lien entre fouilles et conservation à long terme des collections. Et puis faire des petits groupes de travail, des groupes de discussion pour avoir des retours d'expérience sur un certain nombre de points qu'on pourrait choisir. Alors, et ça c'est quand même une grosse question, tout ce qui est législation, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure aussi, évoquer les questions d'acquisition, de propriété, de transfert de propriété dans le cas de vente, d'achat, d'enrichissement des collections, tout ce qui est aussi déontologie. Comment protéger du matériel de terrain, donc on fait un petit peu le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, et ce qui nous a été demandé c'est d'organiser une deuxième journée ammonite, azurite, rhyolite. Mais avant ça, on vous donne rendez-vous, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, en octobre, au deuxième colloque des collections de sciences de la Terre à Grenoble. Alors ça, c'est juste pour vous dire que le site va être ouvert dans les jours qui viennent. Donc, je le ferai circuler, ou Damien, on le fera circuler sur le réseau, sur la liste de diffusion. Voilà, donc ce sera notre prochain rendez-vous, et on s'engage à réfléchir à une journée 2, à une suite, mais elle ne se fera pas sans vous, donc on vous enverra encore sans doute un questionnaire. Et je voudrais juste finir par vous dire que Damien, ici présent, si j'ose dire, vient juste d'être félicité par le CNRS pour ses services rendus. On vient de lui remettre la médaille de cristal du CNRS. Alors moi, je veux juste lui dire que déjà le féliciter et lui dire que je pense que le travail qu'il fait pour nous accompagner joue un petit peu et lui dire qu'on est très fiers.
Merci, voilà. Merci, félicitations. Des questions ? Oui.
Amélie.
Je voulais juste apporter un petit complément d'information. Je vais donc un peu cafeter. Mais Catherine Didelot, ici présente, participe au groupe de travail de différents musées, justement pour réfléchir au remplacement des matériaux de conditionnement par des matériaux plus durables. Et par ailleurs, l'INP est aussi investi par le biais de programmes de recherche, enfin accueil de stagiaires par le laboratoire, sur la question de réfléchissons à des nouveaux matériaux plus durables, mais il faut quand même qu'ils remplissent leur fonction première, qui est de protéger les collections. Et donc, ça rend le sujet quand même assez complexe, parce qu'il faut quand même que ces matériaux soient durables et qu'ils absorbent les vibrations, qu'ils ne dégagent pas de vapeurs nocives. Voilà. Donc, je pense qu'on aura matière à mettre les réseaux en contact pour discuter des réflexions. Hein. Je ne parle pas de résultats, mais de réflexions de ce groupe de travail.
Je crois qu'il y avait une question.
Merci pour ce retour. Moi, je voulais juste faire un petit
Une petite remarque sur la pyrite et sur le fait qu'il y ait tant de, peut-être de déceptions par rapport à la conservation. En fait, c'est quelque chose d'extrêmement hétérogène, vous l'avez vu, il y a de la pyrite qui se trouve en collection de géologie, il y a de la pyrite qui se trouve en collection paléontologique, et en fait, ce n'est pas que la pyrite, enfin, il n'y a pas que le matériau pyrite. Potentiellement, il y a l'interaction avec son encaissant, ça peut être de l'os, ça peut être de la roche, ça peut être, etc. Et en fait, c'est cette complexité qu'il faut prendre en compte, parce qu'il y a des interactions avec les matériaux, il y a la taille de la pyrite qui n'est pas forcément la même entre ce qui se passe en géologie, ce qui se passe en paléontologie, et du coup ça veut dire une réactivité qui est complètement différente. Et enfin il y a l'environnement qui est encore un peu plus loin, qui est les matériaux de conservation. Effectivement, ça ne va pas réagir de la même façon si on est dans des collections stockées dans des armoires en bois ou en métal, etc. Et donc en fait, le fait de dire qu'on ne comprend pas les mécanismes, alors pour la pyrite, il y a 3 mécanismes actuellement qui sont proposés, mais en fait, ce n'est pas forcément tellement les mécanismes que les interactions entre tous les agents différents. Et donc, effectivement, pour l'instant, ce qui est le plus simple, c'est y a des études isotopiques qui ont été faites qui montrent qu'effectivement, c'est l'oxygène de l'humidité, enfin de l'eau, disons, qui est la plus embêtante. Donc, pour l'instant, la seule recommandation qu'on a, effectivement, c'est mettre à l'abri de l'humidité. Mais y a un travail énorme, en fait, sur la pyrite pour essayer de comprendre et de distinguer quels sont les facteurs les plus importants. Est-ce que c'est la taille? Est-ce que c'est l'interaction avec l'environnement? Est-ce que c'est à l'intérieur de la pyrite des choses qui peuvent se passer en électrochimie? Et du coup, je pense que c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, la conservation des matériaux pyriteux est aussi compliquée. Et voilà. Ce qui est encore, dernière remarque, complexifié par le fait qu'il y a un certain auto-entretien de l'oxydation qui se passe et qui rejoint en fait la problématique de comment stopper quand ça a commencé à se dégrader. Voilà, c'était un petit retour sur la pyrite.
Mais ça, on est totalement d'accord, et le fait aussi que ça représente une énorme masse de travail, Claire en parlait un petit peu tout à l'heure, elle pourra en reparler, et je pense que c'est une observation qu'on peut même étendre à peu près tous les types d'altérations qu'on a évoquées, que ce soit bine ou que ce soit même d'autres efflorescences que Véronique va un petit peu aborder tout à l'heure. Il y a une espèce de cercle vertueux entre le fossile, le matériau, etc., etc. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et c'est des choses que, justement, qu'il faut que nous, je veux dire les personnes qui sont les doigts dans les tiroirs, comprennent. Et je suis tout à fait d'accord avec toi.
Bonjour. Alors, effectivement, à la suggestion de Véronique, je vais me présenter. On se connaît déjà, mais c'est pour les autres. Joseph Falconet, je remplace ma conservatrice du Muséum d'Orléans pour la biodiversité et l'environnement. Et j'en charge les collections de paléontologie qui sont là-bas. On parlait de la pyrite qui se présente sous des tonnes de formes différentes. Et quelque chose qu'on découvre régulièrement en collection, ce sont de nouveaux gisements problématiques. Pour la paléontologie notamment, et des gisements qui ne sont pas forcément signalés dans la littérature comme problématiques. Donc on a parfois des collections qui ont été récoltées il y a 100 ans, 50 ans ou 150 ans, et c'est seulement après tout ce temps qu'on découvre de la poussière à la place de nos spécimens. Et en fait, c'est souvent dit par le bouche à oreille qu'on le sait, c'est très rare d'avoir des publications à ce sujet, dire voilà, attention dans tel gisement, on a tel type de problème. Parce que dans certains gisements, les fossiles eux-mêmes sont pyriteux. Parfois, c'est uniquement l'encaissant. Parfois, c'est de la pyrite diffuse. Parfois, c'est sous forme de nuages, mais plus ou moins concentrés, qu'on peut amputer et du coup protéger le reste du spécimen. Voilà. Pour la conservation préventive, comme on ne peut pas tout regarder, savoir que tel gisement qui n'était pas connu comme tel l'est finalement, ça permettrait déjà de cibler les mesures de conservation préventive qui peuvent coûter cher, effectivement.
D'où l'intérêt de ce que présentait tout à l'heure Damien en tout début, de ces espèces de petites fiches. Et je note que tu es donc volontaire pour participer au groupe de travail sur le recensement des sites pour que justement la communauté soit au courant de ça. Merci, Jocelyn.
Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je fais un tout petit commentaire sur le fait... Là, on est face à un réseau Géocollection qui est jeune, parce que c'est 2021, donc l'initiative, que depuis chaque année, il se passe quelque chose. Voilà, 2022, premier colloque, 2023, les RSTRN, cette année, deux événements, le jour, enfin, aujourd'hui et en octobre pour le colloque des collections en sciences de la Terre. Donc, ça monte en puissance. J'espère que le nombre d'inscrits va monter aussi en puissance, parce que les groupes de travail qui vont être mis en place me sont hyper importants. Et après, c'est effectivement comment ce groupe de travail initie une ou des journées sur des thématiques particulières, tout ce qu'on a pu voir, hein, une journée moisissure, une journée pyrite. On en parle beaucoup de la pyrite.
C'est pour vous. Et du coup, c'est pour vous, Amélie, ça.
Voilà.
Non, mais je signale qu'il y a 4 thèses en cours sur la pyrite actuellement.
Ben justement, il va falloir...
Ah, voilà, donc il y a matière. Il faudra partager. Voilà.
Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir un moment de partage d'expériences, de partage des dernières connaissances, justement, via les thèses ou autres, et puis les partages aussi des dernières techniques, parce que pour toute cette communauté, oui, en charge des collections de sciences de la Terre, ce qui est aussi important, c'est que vous vous rendiez compte que vous n'êtes pas seul face parfois, malheureusement, non mais c'est vrai, à vos inquiétudes, à vos questions, puis parfois même face au désarroi, on ouvre un tiroir quelques années après, et puis on se rend compte que tiens, le spécimen n'est plus là, en tout cas, il est en poussière. Voilà. Et donc, ces partages, ces moments de partage, effectivement, qui sont initiés avec ce réseau, sont, à mon sens, excessivement importants. Et je remercie les personnes qui en sont à l'initiative et puis qui le tiennent et le maintiennent.